Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
À Montpellier, à la Panacée. Bonjour d'abord, pardon. Donc à Montpellier, à la Panacée, l'OREM, c'est-à-dire l'Observatoire des recherches montpelliéraines de l'environnement, rassemblait des chercheurs du CNRS, de l'Université de Montpellier, pour une réflexion sur la réouverture des mines en Occitanie. Des experts, des expertes ont abordé autour d'une table ronde les enjeux environnementaux, économiques et sociaux de l'exploitation minière, essentielle aux énergies renouvelables, mais aux conséquences souvent controversées. Alors, faut-il rouvrir des mines en France pour soutenir la transition énergétique ? Les besoins en ressources minérales critiques, comme on les appelle, augmentent avec l'essor des énergies renouvelables, les éoliennes, les batteries électriques, vos portables. Tout cela nécessite des terres rares. Le débat est donc ouvert. Comment répondre à ces besoins tout en limitant les impacts environnementaux ? Les mines sont aujourd'hui fermées sur notre territoire, mais elles laissent un lourd passif environnemental derrière elles. Au plan sanitaire, des démarches concernent encore des populations riveraines d'anciens sites. Et l'on craint de voir s'accumuler des morses de nouveaux ennuis. Depuis plus de 10 ans, par exemple, les travaux se poursuivent à Salsigne pour endiguer des retenues censées bloquer les écoulements de zinc ou d'arsenic. Elles ont été construites en 2019, ces digues, et elles résisteront peut-être ou peut-être pas aux nouveaux événements extrêmes. Existe-t-il donc une certitude pour une activité minière durable ? Guillaume Pitron, qui est journaliste et auteur d'un livre qui a rencontré un grand succès et qui vient d'être réédité, « La guerre des métaux rares » aux éditions des Liens qui libèrent, vient également de réaliser un documentaire sur le sujet qui est libre de droit et que vous pouvez voir sur YouTube. Il est spécialiste de la géopolitique des matières premières. Il avait présagé la prise de conscience qui s'opérerait au moment de la réouverture des mines. Les consommateurs allaient toucher de près ce qu'il coûtait d'être moderne et connecté. Et même les écolos allaient devoir réfléchir au paradoxe de la fin du pétrole. Écoutons-le.
Alors d'abord, on va aller chercher dans des pays où il se trouve que dans des pays qui sont moins respectueux des règlements d'installations environnementales que nous, pays européens. Donc on va aller chercher notamment en Chine, on va aller chercher au Congo, Kinshasa, on va aller chercher en Bolivie. Ces pays n'ont pas les mêmes réglementations, les mêmes standards. Et donc du coup, le coût environnemental est aggravé par le fait que ce n'est pas nous, avec nos propres standards, nos propres normes, qui les extrayons. Donc il y a un coût environnemental, il y a un coût social, il y a un coût humain. Ce sont des coûts dont on n'a pas vraiment conscience, parce que ça se passe loin de chez nous. J'ai l'illusion que tout est propre chez moi, mais en fait, il faut bien que quelqu'un paye ce coût-là à l'autre bout du monde, mais ça se passe à des milliers de kilomètres, où personne ne va. Et donc du coup, il y a un coût qui est invisibilisé, mais qui est réel, qui n'est pas négligeable et qui risque de rendre la transition énergétique difficilement acceptable sur le plan social si on ne fait pas quelque chose pour mitiger ces coûts-là. On a fermé des mines de métaux comme le tungstène, on a fermé des usines de raffinage de terres rares. La France produisait 50% des terres rares dans les années 80. Mais comme c'est trop sale, on a laissé d'autres pays se salir à notre place. Donc on arrive à la situation où on dépend d'autres pays producteurs, mais parce qu'on l'a bien voulu. Simplement aujourd'hui, Mohamed Kassi, le temps minier, il est très long. Le temps de la transition énergétique est très court. Il faut se dépêcher, tout le monde l'a compris. Mais ouvrir une mine, ça met un temps fou. Il faut explorer, il faut ensuite trouver des investisseurs, il faut se débattre avec les communautés locales qui ne veulent pas de la mine, avec l'administration qui veut protéger les papillons et les grenouilles. C'est fort respectable et c'est normal. Mais le temps de la mine, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est 16 ans et demi en moyenne pour une mine dans le monde. Donc entre le moment où vous dites « j'ai conscience de mes besoins » et le moment où vous pouvez vraiment extraire un gramme, il se passe tout ce temps-là. Et pendant ce temps, il faut augmenter les besoins. Donc le temps de la réaction américaine, le temps de la réaction française, le temps de la réaction européenne est un temps qui est long. C'est un temps qui est minier et c'est pas encore une fois le temps des urgences telles qu'on les évoque lorsqu'on va à la COP. Et puis il y a un dernier sujet fascinant, c'est celui des nouveaux matériaux. Par quels nouveaux matériaux allons-nous remplacer les matériaux tels que le lithium et le nickel? Si on remplaçait le lithium par du sodium, si on remplaçait le nickel et le cobalt par des batteries lithium-fer-phosphate, fer et phosphate, donc vers quels nouveaux matériaux stratégiques allons-nous progressivement nous basculer pour pouvoir nous sevrer de ces métaux aujourd'hui critiques au profit d'autres métaux qui vont aussi, du coup, devenir stratégiques? Mais peut-être que demain, l'avenir de la transition énergétique se niche dans nos poubelles de déchets alimentaires qui peuvent être, selon certains laboratoires, transformés en matériaux de la transition énergétique.
Alors, ces arguments, eh bien, on aimerait qu'ils soient aujourd'hui débattus dans l'enceinte des COP. Or, il n'en est rien. Dans une interview, Guillaume Pitron, d'ailleurs, raconte comment il a été relégué dans une tente pour un event, comme on dit, une intervention loin des débats officiels. Mais il ajoute aussi l'importance est de se débarrasser d'abord des fossiles et la tâche est immense. Mais ne faudrait-il pas, dès aujourd'hui, regarder le caillou dans notre chaussure ? À la table ronde de l'OREM, à la Panacée, Bénédicte Sanky a lancé le débat. Alors, vous ne verrez malheureusement pas la carte qu'elle nous a présentée, puisque nous sommes à la radio, et elle qui est une carte qui révèle la richesse en métaux de toutes sortes de notre région. Et je vous invite à aller la voir via Internet sur le site soit de l'OREM ou du BRGM pour en prendre connaissance. Bénédicte Sanky est chercheuse, enseignante, géologue, et elle répond aujourd'hui à nos questions. Bénédicte, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous suivez de longue date cette course aux métaux rares, que l'on appelle désormais des métaux critiques, car ils pourraient, comme ce fut le cas pour le pétrole, rendre notre développement industriel totalement dépendant de la Chine. On vous demande aujourd'hui de cartographier, d'inventorier les ressources sur notre sous-sol. Et pourquoi ce questionnement est-il de retour aujourd'hui ?
Alors, merci pour cette question. J'aimerais revenir un petit peu, remettre en perspective mon parcours, du coup, parce que cette course à la recherche des métaux et ce répertoire de l'inventaire des métaux qu'on a sur le sol français, il est plutôt pratiqué par le BRGM, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières. Et d'ailleurs, le président Macron a relancé cet inventaire l'année dernière, en ayant débloqué plusieurs dizaines de millions d'euros. Et moi, venant de l'université, j'ai un parcours très académique et ma contribution dans cette conversation sur « alors faut-il rouvrir des mines ?» c'est un petit peu provocateur. Moi, je préférerais le titre « Comment réconcilier énergie et environnement dans la transition écologique ?» Et moi, en tant que géologue, je suis une spécialiste des minéraux et des roches. Donc bien avant que ce débat soit revenu sur la scène française, européenne et mondiale, ça fait une vingtaine d'années que moi, ce qui m'intéresse, c'est les roches et les minéraux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces métaux, on ne les trouve pas comme ça, en se promenant par terre, à l'état brut. Ils sont en fait ces métaux qui sont importants pour la transition énergétique et ceux qui sont beaucoup plus abondants, ils sont dans des carcans des minéraux, des roches et des minéraux.
C'est donc pour
les roches et les minéraux qui nous permet de localiser leurs ressources.
Donc en fait, pour arriver à une transition énergétique qu'on appelle de nos voeux, elle réclame beaucoup de ressources nouvelles et pour passer de l'économie qu'on connaît qui repose sur les fossiles à une économie propre, il va nous falloir de nouvelles ressources.
Oui, pour par exemple transformer une énergie renouvelable comme le vent en une énergie électrique utilisable par l'homme, il faut construire des éoliennes. Les éoliennes, on a besoin de béton pour la stabiliser, on a besoin de fer, on a besoin pour faire de l'acier, mais on a besoin aussi des petits métaux que vous avez appelés des métaux critiques. Par définition, des métaux critiques, c'est des métaux qui sont importants pour l'économie et sur lesquels peuvent peser des risques d'approvisionnement, et notamment pour les aimants permanents. Dans certains types d'éoliennes, notamment les éoliennes offshore, on a besoin des éléments qu'on appelle les terres rares et plein d'autres petits métaux. Ça, c'était l'exemple des éoliennes. c'est pour faire des panneaux solaires, transformer l'énergie du soleil qui est renouvelable en électricité, il faut fabriquer des panneaux solaires, etc. Et chacune de ces technologies va nécessiter une grande diversité de métaux et des très grandes quantités de métaux. Et selon les mix énergétiques qui sont prédits ou souhaités pour un horizon 2050, selon les mix qui sont faits de l'éolien, solaire, éolien, géothermie, et ben cette demande dans ces différents types de métaux, c'est sûr qu'elle va augmenter, mais individuellement, ça va avoir des grandes différences sur différents métaux. Par exemple, pour le stockage de cette énergie, le graphite est très important. Pour d'autres types de technologies, moins. Donc, et pratiquement toutes ces technologies dans leur ensemble vont nécessiter tous les... Si vous avez des souvenirs de chimie, du collège ou du lycée, tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev.
Alors, pour l'instant, on construit des outils propres. Vous avez parlé des éoliennes, vous avez parlé des panneaux solaires. Donc, en termes d'émissions de CO2, ces outils sont propres. Mais sont-ils propres pour tout l'environnement quand on analyse la manière dont ils ont été fabriqués?
Eh bien non, il faudrait faire des vrais bilans carbone qui prennent en compte les conditions d'extraction. Parce que pour extraire des métaux depuis les roches et les minéraux, il faut de l'énergie. Et cette énergie, bah, il faut la produire dans certains pays. L'énergie pour extraire les métaux, bah, c'est de l'énergie au charbon. Du coup, il y a tout un bilan CO2 en amont de la chaîne qui est, et pas uniquement que CO2, un bilan environnemental, social, etc., de cette extraction des métaux. Donc c'est vraiment une problématique, toute une chaîne d'approvisionnement, une chaîne de fabrication de ces nouvelles technologies qui devrait être prise en compte. Et pour peut-être un point qui est très très important, c'est que les gisements qui étaient très concentrés, et de tout type de métaux qui étaient très concentrés, qu'on pouvait trouver à la surface de la Terre ou à faible profondeur, donc qui étaient accessibles à l'homme, les gisements qui étaient très concentrés, de l'ordre de quelques pourcents en termes de métal par rapport au volume de roche, ces gisements, en fait, ils sont épuisés. Et alors, on n'avait pas besoin de trop d'énergie pour les exploiter. Par contre, maintenant, on va chercher des gisements qui sont de plus en plus dilués, et notamment les terres rares, et du coup, il faut beaucoup d'énergie pour aller extraire les métaux des roches. Et donc, produire cette énergie, bah, comment on le fait? C'est pas forcément propre.
Bon, alors, donc, voilà, déjà un premier problème qui est pointé. Alors, l'autre risque, c'est celui de l'approvisionnement. On sait que 95% des terres rares viennent de Chine. Ce chiffre, bien sûr, recule régulièrement. Mais même quand nous allons ailleurs chercher les métaux critiques, on repasse par la Chine pour les traiter. Alors, qu'en est-il de notre souveraineté? A-t-on suffisamment? Donc, ça, vous venez d'en parler en nous disant qu'il va falloir aller chercher plus difficilement. Et la deuxième question, on parle aussi de raffinage. Alors, qu'est-ce que c'est? Et une nouvelle fois, c'est la Chine qui est en pole position.
Oui, donc il y a tous ces processus métallurgiques. Donc, comment l'homme passe d'une roche qui est concentrée à quelques pourcents en un métal jusqu'à un métal pur, ça, c'est des procédés physico-chimiques, hydrométallurgie, qui vont permettre de faire ce processus. Et là, c'est vrai, et ça dépend vraiment des types d'éléments. On n'a pas du tout les mêmes chaînes métallurgiques pour les terres rares, pour le nickel, pour tous ces métaux. Donc, c'est des procédés qui sont quand même très, très spécifiques. Et cette partie donc de métallurgie, elle est, bah, certaines sont en Chine pour certains éléments, en Malaisie aussi, il y avait une usine de raffinage en Malaisie pour les terres rares, donc ça va vraiment dépendre des différents types de métaux. Et cette métallurgie, elle peut être basée sur la chaleur, pyrométallurgie, donc on a besoin de beaucoup d'énergie, il faut de l'énergie, comment on fait cette énergie. Et ce qui est problématique pour les terres rares, c'est que les sols vendent souvent des acides forts et donc des forts risques de pollution, qu'on appelle hydrométallurgie ou la solvométallurgie.
Alors, avant de revenir à la demande d'inventaire national, avant de revenir à notre territoire, vous nous avez dit que vous aviez une longue pratique, finalement, en recherche géologique. Donc, vous avez fait de nombreuses expéditions. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement une de ces expéditions? Comment se passe votre repérage?
Oui. Alors, du coup, déjà, le repérage des missions, elle commence dans la littérature. Se poser des bonnes questions scientifiques pour trouver des bonnes fibres et pour trouver des objets géologiques, des roches qui vont nous permettre de répondre à certaines questions. Et alors, peut-être une mission qui me tient à cœur, et donc j'ai publié le récit dans un article à The Conversation, qui est fait pour le grand public, du coup. Hein. C'est une mission en autonomie de 2 semaines. J'ai passé 1 an et demi à l'Université de Sydney en 2019-2020. Et à cette occasion-là, j'ai pu faire une mission dans l'outback australien pour aller chercher des roches assez spécifiques qui pourraient contenir, selon la littérature, des minéraux avec des terres rares lourdes. Donc, ils sont encore plus rares que les terres rares. Des minéraux comme yttrium, ytterbium. Et donc là, on est parti carrément en autonomie dans une grande station. C'est là, le cœur de l'Australie, c'est des grandes stations d'élevage. Donc, il faut demander l'autorisation. Il faut faire à peu près 6 heures de route entre demander l'autorisation au couple de fermiers qui gère ces grandes stations d'élevage pour pouvoir accéder au domaine qui est un domaine privé. Il n'y avait pas d'eau courante, donc il fallait emmener tous les bidons d'eau, toute la nourriture, de quoi cuisiner, faire du feu dans une petite rivière asséchée, les tentes.
Une véritable expédition, quoi.
Une véritable expédition, pas d'internet, donc ça veut dire imprimer toutes les cartes géologiques, les télécharger, géoréférencer dans des iPads, avoir des impressions papier au cas où, avoir un chargeur solaire pour recharger quand même les iPads. Donc y a pendant 2 semaines, aucun internet, rien du tout. Hein. Donc téléphone satellite au cas où il y ait des problèmes d'urgence. Et donc ça, c'est une mission que j'ai faite en 2019-2020. J'ai eu la chance d'y aller avec un collègue de Sydney, Patrice Ray, et ma collègue de Montpellier, Floris Parra aussi, pétrologue magmatique.
Et alors, vous revenez de là avec des résultats?
Alors là, déjà, dans un premier temps, on revient avec quelques dizaines de kilos de cailloux qu'on renvoie par la poste. Et après, il y a tout un très long processus de recherche. Déjà, notre œil nous permet de faire des sélections.
Et là, ça se passe à l'université à Montpellier.
Et après, à l'université, on fait des fines lamelles de roches qu'on étudie au microscope optique, puis au microscope électronique à balayage. On va essayer de quantifier la teneur des minéraux en terres rares à des machines qu'on appelle la microsonde.
Et là, vous retrouvez tous vos étudiants.
Alors, on prend des étudiants en stage pour nous aider à faire toutes ces analyses. Eux se forment aussi par la recherche à ces techniques de pointe. Et petit à petit, donc là, on avance dans les résultats. On veut connaître les concentrations en terres rares de chaque minéraux à la toute petite échelle, l'échelle du micromètre, et essayer de répondre aux questions qui s'étaient posées initialement. Et après, au final, quand on a une publication, des résultats, on la publie, on la partage avec la communauté scientifique.
Alors, il faut savoir que...
Pour donner juste une échelle de temps, la mission de 2019, je n'ai pas encore communiqué. J'ai communiqué dans des congrès les résultats des recherches, mais je n'ai pas encore publié vraiment une publication complètement reconnue. Donc, on est vraiment dans des échelles. La science académique, elle dure aussi quelques années parfois. Parfois, ça peut être plus rapide. Voilà.
Voilà. Et alors, en plus, alors donc merci de nous donner cette échelle de temps, mais ensuite, ce n'est pas seulement un débat scientifique ou technique. Finalement, les réponses qu'on vous demande de donner aujourd'hui, elles reposent aussi sur des choix de société qui seront faits. Ainsi, on a des scénarios qui nous ont été proposés par l'ADEME et demain, il va falloir qu'on choisisse aussi quel type de société on veut et à quel niveau, finalement, on va utiliser ces terres rares. Par exemple, si on prend les voitures, ça sera un exemple assez simple à comprendre.
Oui. Alors, dans un premier temps, déjà, j'aimerais souligner que dans cette conversation, on va dire interdisciplinaire ou transdisciplinaire entre les différentes disciplines, ce n'est pas une discipline qui trouvera la solution. Moi, en tant que géologue, pétrologue et minéralogiste, je peux aider à connaître les concentrations dans les minéraux ou dans les roches. Mais il faut engager la conversation avec des physiciens et des chimistes qui vont aller, par exemple, dans l'exemple de la voiture, trouver des substituts pour les batteries au lithium. Guillaume Pitron parlait de batteries au sodium. Pour trouver des substituts aux différents éléments, il faut penser aux ingénieurs qui vont faire de l'éco-conception. Donc les éléments qu'on ne peut absolument pas remplacer, et ben il faut les construire de la conception des technologies de manière à mieux les recycler quand l'objet sera en fin de vie, pour faciliter la mine urbaine, ce qu'on appelle. Il faut des sociologues qui vont réfléchir à l'impact sur les populations, qu'on fasse une mine ici ou qu'on la fasse ailleurs, qu'on l'enlève ailleurs, qu'on la fasse ici. Ça fera aussi des impacts. Il faut penser à intégrer des économistes, des juristes dans cette conversation. Et depuis ces quelques années, c'est vraiment une formidable opportunité de travailler en coopération sur cette problématique des ressources minérales et qui sont demandées par la transition énergétique.
Et là, vous venez d'évoquer finalement la complexité de la recherche et du groupe de scientifiques qu'il faut regrouper. C'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé on est de moins en moins sur un travail très pointu en silo des scientifiques. Ils vont être obligés de travailler ensemble. Mais il y a autre chose, il y a aussi un choix de la société. Par exemple, on lit beaucoup que si au lieu de fabriquer des SUV, enfin des SUV qui pèsent des tonnes, on fabriquait plus de petites voitures, on aurait moins besoin et on pourrait faire plus vite cette transition écologique.
Alors il y a plein d'éléments qui sont à être modulables dans cette transition énergétique. Alors moi, j'aime pas. Alors maintenant, je vais vous parler peut-être plus en tant que... Moi, ma spécialité, c'est donner les concentrations dans les minéraux et dans les roches. Après, c'est vrai qu'il faut s'inscrire et tout de délivrer des informations qui pourraient être utilisées par les décideurs. Et notamment, l'ADEME a proposé des scénarios pour la transition énergétique. Il y en a 4 avec 2 extrêmes. L'un basé sur un fort changement de nos comportements, c'est-à-dire plus de sobriété, c'est-à-dire comme vous dites, des petites voitures. Si on décline cet exemple sur la taille des voitures, des petites voitures, ou alors plus de transport à pied ou en commun, etc. Et un scénario, l'autre extrême de scénario, c'est un scénario hyper technologique basé sur un pari réparateur, sur même des technologies qu'on ne connaît pas et qui, là, pour le coup, demanderait beaucoup plus de métiers. Donc, la réponse, à mon avis, et là je parle en tant que citoyenne, elle n'est pas unique. Ce sera tout, si vous regardez les scénarios de l'ADEME, qui sont très bien faits et très bien expliqués aussi pour le grand public, il y a plein de variables. L'habitat, comment se mouvoir, comment s'habiller, comment manger, comment fabriquer de l'énergie, etc. Donc, personnellement, donc à mon avis personnel, il n'y aura pas une solution. C'est clair que plusieurs petites voitures, peut-être dans un certain contexte, ce sera plus efficace pour la collectivité qu'un gros SUV, mais c'est vraiment de loin pas le seul levier. Donc c'est un exemple qui est parlant, mais il faut vraiment réfléchir collectivement sur tous les leviers en parallèle et pas, c'est mon avis personnel, pas stigmatiser l'une ou l'autre solution.
D'accord.
D'où l'intérêt de rassembler beaucoup de monde autour de la table de cette conversation.
Donc, en fait, vous nous avez présenté une immense possibilité d'action. Les unes coûteront plus cher que d'autres. Les unes nécessiteront plus d'énergie que d'autres. La décision gouvernementale a été précédée. Enfin, la décision gouvernementale qui vous a conduite à multiplier ces recherches et cet inventaire avec le BRGM au niveau des régions, elle a été précédée par une initiative européenne du Critical Raw Materials, ce qu'on appelle le CRMA Act, hein, oui. Qui a été présenté en mars 2023, mais finalement sur lequel on travaille depuis 2008. Hein. Donc, un plan qui devrait favoriser l'implantation de projets miniers, d'usines de raffinage sur les sols européens, afin de réduire la dépendance, hein, suite à l'appel de Thierry Breton, qui avait dit « Sans accès sécurisé et durable aux matières premières nécessaires, notre ambition de devenir le premier continent neutre en carbone est menacée ». Donc, vous êtes d'accord avec lui, si on ne
oui.
trouve pas.
Alors, oui, alors de manière générale, cette prise de conscience, en fait, de l'importance des ressources minérales, elle a commencé à peu près il y a une dizaine d'années, partout dans le monde. À mon avis, quand j'étais étudiante il y a 25 ans, ça m'intéressait beaucoup, la métallogénie, les ressources minérales. Mais comme c'était au moment où les mines venaient de fermer, on n'en connaissait plus du tout. Et cette prise de conscience, elle est revenue dans les années 2010, on va dire petit à petit, partout dans le monde. Parce qu'il y a eu la crise des terres rares avec la Chine en 2008-2010. Et du coup, il y a eu vraiment une explosion des prix. Et depuis ce moment-là, il y a des efforts qui sont faits par l'Europe, par l'Australie, par les États-Unis pour engager cette réflexion sur réouvrir des mines.
Alors, tout cela, ça se concrétise, puisque, en fait, ça sort des cartons. La première proposition d'importance est celle de l'ouverture de la mine de lithium à Échassières dans l'Allier, une mine qui permettrait de fournir un équivalent de 700 000 batteries de voitures électriques chaque année et qui représente 25 ans de travaux miniers. Alors, un débat public a eu lieu, puisqu'on a évoqué la dimension sociétale des choix. Il a eu lieu du 11 mars au 31 juillet 2024. On en a très, très peu entendu parler. C'est vrai qu'il y avait, sur le plan politique en France, à cette époque, d'autres soucis. Il a quand même réuni 3600 personnes et les discussions ont été très houleuses. Donc, de nombreuses questions et des oppositions sont apparues et on attend pour l'instant les conclusions et les réponses. Donc, on va de nouveau, bien sûr, parler de cet événement.
Oui. Alors moi, j'aimerais peut-être rester sur mes fondamentaux, c'est-à-dire mes connaissances en géologie et minéralogie, pour rebondir sur votre question. Donc l'annonce de la mine de lithium dans l'Allier et deux autres annonces qui pour moi sont un peu parallèles, qui ont été faites l'année dernière et cette année en Suède et en Norvège respectivement, d'ouverture de deux mines de terres rares. Alors déjà, dans tous les cas, les géologues connaissaient, qui savait qu'il y avait des concentrations assez importantes en ces métaux, que ce soit en Suède ou que ce soit en lithium dans l'Allier. Donc c'était connu des géologues. Enfin, vraiment, il y a un effet d'annonce pour le grand public, c'était connu des géologues. Dans les trois cas, bon alors on n'est pas du tout dans les mêmes systèmes chimiques, mais dans les trois cas, c'est des endroits qui sont déjà entrepris. C'est-à-dire que c'est dans la mine de lithium dans l'Allier, en fait, il s'agirait de construire, de creuser plus en profondeur dans le granit, la roche-mère dans une carrière où est déjà extrait les argiles, le kaolin. En Suède, là où ils ont annoncé démarrer une mine de terres rares, donc dans la région de Kiruna, c'est un endroit qui est déjà exploité pour le phosphore, les apatites et le fer depuis les années 40. Donc c'est des endroits qui géologiquement sont connus et à un moment donné, en fonction d'un certain contexte socio-économique, les entreprises, LKAB en Suède notamment, ont décidé qu'ils allaient pouvoir essayer de l'exploiter. Alors pour l'instant, c'est pareil comme Guillaume Pétron a dit, on est dans un horizon de plusieurs années, voire une dizaine d'années.
Bénédicte Sanky, je pense que effectivement, vous avez des milliers de choses à nous raconter, mais je pense que nous n'avons pas épuisé ce sujet. Nous y reviendrons l'année prochaine parce que nous aurons des résultats concernant la mine de lithium, etc. Et je pense que, bien sûr, c'est un sujet que vous aurez de nouveau l'occasion d'aborder avec nous. Alors, avec Karine Casio en 2025, d'ailleurs, nous poursuivrons dans ce débat et en revenant sur les propositions, enfin les conditions environnementales de ce que pourrait être une mine la plus propre possible, en sachant qu'une mine ne peut pas être propre, et sur les autres possibilités que pourrait nous offrir le sous-sol, parce que finalement le sous-sol, en dehors des minerais, peut nous offrir beaucoup d'autres choses. Donc on essaiera aussi de suivre cette piste. En attendant, suivez avec attention tous la première semaine de la COP29 sur le climat. Au revoir et bon week-end. Portez-vous bien. Au revoir, Bénédicte.
Merci. Au revoir. Merci à vous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.